Et bonjour tout le monde, vous êtes sur le francophone avec Yann et Mathieu. Aujourd'hui, ça a pris 71 épisodes avant qu'on daigne parler du sepsis. C'est maintenant chose faite. C'est parti!
Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques.
Allô Mathieu, ça va?
Ça va bien, toi, Yann?
Oui, ça va bien. J'avoue qu'on a fait nos devoirs. Les nouveaux guidelines du sepsis, le Surviving Sepsis Campaign 2021 de la Société des soins intensifs européenne est sortie. Première réaction à chaud comme ça quand tu as lu les guidelines, Mathieu, t'as pensé quoi?
Ben, pas mal du pareil au même. Hein. C'est pas du copier-coller de 2016 à 2021, mais c'est pas mal la même chose. Ça se ressemble beaucoup. J'ai l'impression qu'on avance à pas de tortue.
Ouais, on dirait que c'est comme si on avait fait un gros tour sur soi-même, un 360, puis on vient à la même place. En fait, je veux dire, c'est 93 recommandations, il faut le dire, là. C'est un travail colossal qui a été fait. Il n'y a pas vraiment beaucoup de changements depuis les guidelines de 2016, donc ça fait 5 ans que c'est à peu près la même chose. Ils touchent tout, hein. Ils touchent la réanimation initiale, la tension artérielle moyenne, les admissions aux soins, tout le côté infectieux, gestion de l'infection, le management de l'hémodynamie, la ventilation, les traitements additionnels. Puis, tout ce qui est pronostication, puis but de traitement, niveau de soins. C'est très global. Le problème, c'est qu'au bout de la ligne, quand on regarde la qualité, la validité des recommandations, ben on a 58 % de recommandations qui sont dans la catégorie faible, weak. On en a juste 16 % qui sont forts, puis on a 16 % de best practice.
T'as raison. Puis quand on regarde le niveau d'évidence, là, il est très faible, à faible. J'ai fait un petit tableau, là, résumé, et là, je me suis amusé. Ça sera dans les notes de la balado. Mais quand tu regardes, là, 2 recommandations sur 3 sont niveau évidence très faible à faible. Donc, c'est des recommandations qui se basent sur peu de littérature.
Juste pour m'amuser, je suis allé sur Google, puis je suis allé dans articles universitaires et j'ai tapé septic shock en anglais et j'ai eu 672 000 hits. Okay? Donc, il y en a du stock. Alors, quand on regarde, c'est sûr qu'il n'y a pas 672 000 articles là, sur le choc septique, mais que ça traite de ça, il y en a beaucoup. Alors, on regarde sur les 20-25 dernières années, on parle de ça sans arrêt dans la littérature, puis on n'est pas capable de sortir des recommandations un peu plus fortes que ça, ben, ça me déçoit un peu. J'espérais qu'avec les années, ça s'améliore un peu, mais comme tu as dit, on dirait qu'on tourne en rond un peu. Il faut comprendre que les guidelines, ce n'est pas fait pour tout le monde, dans le sens que lorsqu'on connaît bien notre travail, lorsqu'on lit la littérature, lorsqu'on est à jour, je ne suis pas sûr que c'est très aidant d'aller lire ces guidelines-là. Fait que la question qu'on se pose, la question que le monde doit se poser, c'est à qui ça sert, à qui ça peut bien servir ces guidelines-là. Certainement pas ceux qui sont à l'aise. Mais par contre, si vous n'êtes pas à l'aise, si par exemple vous êtes un hospitaliste, puis vous n'avez pas souvent des chocs septiques, ou si vous êtes un jeune médecin qui commence, ou si vous êtes un médecin d'urgence qui voit moins de sepsis dans votre pratique que dans d'autres milieux, ben c'est excellent, puis c'est quand même une bonne marche à suivre. Je vous conseille aussi également de ne pas juste lire les tableaux, je vous conseille de lire chacune des descriptions, parce que c'est une excellente revue de littérature. Ils ont vraiment fait un travail colossal, puis je pense que quand on le voit de cette façon-là, ça nous éclaire sur beaucoup d'études et beaucoup de détails qui vont être avancés, qui les ont amenés à réfléchir à donner ces recommandations-là. Mais globalement, ce qui me dérange le plus dans ces guidelines-là, comme dans beaucoup de guidelines, c'est que, encore une fois, 5 ans plus tard, ils ont la notion que « one size fits all ». Puis ça me dérange. Puis c'est pas vrai que one size fit all. C'est vrai qu'on a toute la même physiologie, mais on réagit pas tous de la même manière au sepsis, tout dépendant de nos comorbidités, de notre âge, de notre race, de l'ethnie, toutes ces choses-là. Alors, je veux pas être dans le négatif tout le temps. Hein. On a quand même ressorti des bonnes choses, naturellement, dans les notes de la balado. Vous allez avoir les liens pour voir toutes ces guidelines-là. Il y a une autre chose qu'on va mettre dans les notes de la balado qui est extrêmement intéressant, c'est que en 2017, Josh Farkas, sur son PalmCrit, avait écrit un super article sur son blog qui s'appelait « Les 6 mythes qui sont mis en évidence par le Surviving Sepsis Campaign ». Puis, c'est excellent, je l'envoie toujours à mes résidents. Il y a des choses très intéressantes là-dessus, comme la gestion du lactate ou les antibiotiques, ou même l'activation sympathique et le choix des amines. Vraiment, c'est une perle, ce petit texte-là. On va vous le mettre dans les notes de balado. Allez lire, ça fait réfléchir beaucoup. Alors, ceci étant dit, Mathieu, maintenant, alors j'aimerais ça t'entendre de pharmacien de profession que tu es. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du côté infectieux dans ces guidelines-là. Donc, j'aimerais ça savoir ce que tu penses, surtout au niveau de la notion, là, on va vous donner les numéros une fois de temps en temps, les guidelines, les 17 à 25, c'est toujours d'aller vers prendre le temps de choisir ces antibiotiques puis se poser les questions de qu'est-ce qu'on veut couvrir. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ça?
Ça, j'en pense beaucoup de choses. Je tiens quand même à préciser, hein, même si on peut avoir l'impression d'être négatif, il faut saluer le travail colossal qui a été fait par les auteurs pour pondre ce guideline-là. Fait que ça,
Absolument.
chapeau. Mais ceci étant dit, une des portions les plus importantes du choc septique, hein, c'est l'infection. Il faut la traiter, puis on va la traiter avec des antibiotiques, naturellement, puis il faut les choisir. Puis, ce que j'aime beaucoup du guideline de 2021 par rapport à celui de 2016, c'est qu'ils ont mis un petit peu d'eau dans leur vin, si on veut, parce que si on se souvient, en 2016, c'était double couverture gramme négatif, vous couvrez le sable pour tout le monde, les antifongiques, on en met dans l'eau de l'hôpital. Là, ils ont commencé à essayer de nuancer un peu là, la double couverture gramme négatif. Bon, c'est chez certains patients, ceux qui sont plus à haut risque d'infection gramme négatif. Même chose pour le sample, les antifongiques. Fait que ça revient un peu à, faut se poser la question, c'est quoi notre pathogène, le ou les pathogènes les plus probables, c'est quoi nos sites d'infection potentiels, et on a le temps. T'sais, ils disent, en dedans d'une heure, faut shooter. Là, t'sais, le patient n'a même pas fini de mettre la porte, le pied après la porte dans l'urgence, puis qu'il faut y avoir shooté à peu près 8 antibiotiques. On est tous d'accord qu'il faut donner rapidement des antibiotiques, mais il faut quand même prendre le temps de réfléchir un petit peu à notre spectre, nos facteurs de risque de notre patient. Prendre le temps aussi d'aller voir si le patient, il n'y a pas des cultures aussi qu'il a par le passé, s'il est porteur de grammes résistants, de germes résistants, etc. Là.
Bref, avoir une réflexion posée sur le choix des antibiotiques. Le Golden Hour, c'est très bon. Docteur Jean-Louis Vincent disait d'aller peut-être plus des fois vers le Golden Minute. Il disait ça dans certains talks que j'ai entendus. C'est peut-être quelque part à l'intérieur de ça, mais des fois, de juste prendre quelques minutes de plus puis d'aller vers un choix plus éclairé, ça va aider. Puis ça, je pense que tu as tout à fait raison, c'est une bonne chose. L'autre point qui est intéressant, c'est le guideline 26 qui parlait d'optimiser les antibiotiques selon tous les paramètres pharmacocinétiques et dynamiques. Ça, je sais que c'est ton dada. Donc, ça pourrait même faire l'étude d'un prochain podcast, là, mais pour l'instant, qu'est-ce que tu as pensé de ce guideline?
Ben, tu sais, ça, c'est une recommandation qui était présente en 2016, puis je me souviens d'avoir dit lors d'une de mes conférences antérieures, c'est la seule recommandation valable de ce guideline-là, puis elle demeure encore. Puis tu l'as dit, c'est un de mes dadas. Puis c'est super important aussi parce qu'il faut ajuster nos stratégies de dosage selon nos antibiotiques. Puis il faut les optimiser. Fait que, tu sais, une fois qu'on s'est posé la question, bon, mon patient, il a-tu des facteurs de risque? Est-ce que je le couvre pour le SAM ou non, etc. Parce que, tu sais, on le dit d'entrée de jeu, c'est pas one size fit all, c'est la même chose pour le choix des antibiotiques, hein, c'est pas une recette unique pour tout le monde. Donc, une fois qu'on a choisi qu'est-ce qu'il faut couvrir, il faut optimiser selon les paramètres pharmacocinétiques. Fait que s'il est temps dépendant, ben à ce moment-là, peut-être que ça vaut la peine de faire des perfusions prolongées ou des perfusions continues de ces antibiotiques-là pour passer le plus de temps possible au-dessus de la CMI. Si au contraire, c'est des concentrations dépendantes, ben là, c'est où ce qu'il faut jouer avec soit les doses totales par jour ou la dose en soi pour avoir une concentration maximale qui est élevée. Donc, il y a toute aussi une littérature derrière ça. Puis je pense, comme tu l'as dit, on pourrait en parler 15-20 minutes, là. En tout cas, moi, je pourrais en parler 15-20 minutes facile, là.
Absolument. Puis les perfusions, ben, maintenant, sont un peu intégrées dans les guidelines. Donc, c'est quand même bien d'en tenir compte. Une fois qu'on a fini ou qu'on est sur le bord d'avoir terminé nos antibiotiques, il faut faire une désescalade. Ça, c'est les guidelines 29 et 30. Comment tu les as trouvées, ces guidelines-là?
Moi, écoute, je ne peux qu'appuyer ces recommandations-là parce qu'il faut toujours se garder en tête hein, une journée d'antibiotiques de trop, ça a l'air bénin, mais à moyen terme, c'est extrêmement dangereux parce que ça va amener plus de résistance. Puis, c'est qu'à court terme, on ne le verra pas ce bénéfice-là. Tu sais, dire, ah, je vais lui donner 2-3 jours de plus, pour le patient que tu as devant toi, généralement, ça ne fera pas grande différence, puis tu ne le verras pas. Mais dans 5-10 ans, on va se ramasser avec des infections de plus en plus sévères. Puis on parle même de l'ère post-antibiotique. Fait que, tu sais, ça fait partie de la gérance des antimicrobiens. Il faut se poser la question à chaque jour, j'ai-tu encore besoin de donner des antibiotiques?
À ce compte-là, il y a le guideline 16 et 31 qui parle d'apocalcitonine. Ça, c'est, je les trouve très intéressants parce que pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez écouter un de nos podcasts qu'on a fait, qu'on pourra mettre dans les liens de balado là, sur l'apocalcitonine. Ils disent qu'est-ce qu'on avait essentiellement dit, puisque la littérature est assez claire là-dedans, c'est qu'il ne faut pas se fier sur la procale pour décider de partir ou non des antibiotiques. Par contre, dans l'antibiogouvernement, ça peut quand même vous aider à réduire votre durée de journée d'antibiotiques à la fin de votre traitement ou au milieu de votre traitement. Puis c'est pas vrai qu'il faut toujours se dire que telle pneumonie, c'est 7 jours, une autre pneumonie, c'est 10 jours, telle infection, c'est tant de journées précises. C'est une mauvaise manière de voir ça. Alors, ces guidelines-là sont venus un peu solidifier ça. Ça, je pense que c'est bien de l'ajouter.
Ouais, puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, tu sais, ça revient à cette durée de traitement. Fait que, tu sais, oui, il faut diminuer notre spectre, mais il faut essayer d'avoir la durée la plus courte possible. Puis, il faut quand même aussi hein, tenir en compte le contrôle de la source. Hein, Yann, tu vas être d'accord avec moi, c'est quelque chose qui est quand même super important qu'il faut faire, là.
Oui, absolument. T'sais, on a beau donner, des fois les antibiotiques vont aider, vont même guérir complètement. Une pneumonie, à part donner des antibiotiques, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais on a beaucoup de sources infectieuses anatomiques qu'il faut prendre en compte et il faut le prendre rapidement en compte. Je pense aux abcès, je pense aux empyèmes, je pense à des vésicules biliaires complètement inflammées, infectées, que les patients sont tellement instables qu'ils ne sont pas amenables au bloc opératoire. Alors, mettre des pigtails, mettre des drains, drainer ça. Enlever une obstruction intestinale, je pense que le côté extrêmement invasif et agressif dans le traitement de la source lorsqu'il y a une portion anatomique à régler, il faut le garder en tête. Il faut être très, très, très rapide avec ça. Puis il faut des fois essayer de convaincre vos radiologistes d'intervention ou vos chirurgiens ou de contrôler les sources vous-même en mettant des drains ou des pectels. Ça, je pense que ça va être ce qui va faire la différence entre la mort ou la survie de votre patient.
Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que on a bien beau optimiser le plus possible nos antibiotiques, si on n'a pas le contrôle, c'est comme un chien qui va tourner autour de oh, après sa queue, là, fait qu'on va tourner en rond puis on n'y arrivera pas là.
Maintenant qu'on a parlé des traitements, contrôle d'infection, je pense que les amines ont pris une grande partie là, de ces guidelines-là. Puis naturellement, bien, les amines, au fil des années, les traitements ont changé un peu, mais pas tant que ça. Fait que, on a le 37 à 39 là, qui nous parle du choix d'amines. Toi, Mathieu, quand tu as lu ça, est-ce que tu as été flabbergasté par cette nouveauté incroyable-là? Non, je suis ironique, là, naturellement. Alors, qu'est-ce que tu penses du choix des amines, du
Ben, tu
guideline?
sais, rapidement, ils ont donné une promotion à la vasopressine qui est rendue un deuxième agent de leur deuxième ligne pour après ça
Ce qu'on
mettre
fait
l'épine.
depuis longtemps.
Ben, c'est ça. Moi, c'est. Comment dire? J'aimais cette recommandation-là parce que ça venait réconforter ce qu'on se dit depuis à peu près, quoi, 5, 6, 7 ans. Tu sais, de toute façon, on en a parlé de long en large, hein, des amines dans un des derniers épisodes, puis on mettra le lien dans les balados. Mais tu sais, grossièrement, c'est encore une fois pas one size fit all, puis il faut ajuster aux besoins du patient. Si le patient, tu sais, votre patient que vous avez devant vous, ben, il a clairement un besoin d'un support inotropique, mais ça donne rien de donner de la vasopressine. Même si vous n'êtes pas rendu techniquement à la troisième ligne pour en donner, t'sais. Fait qu'il faut s'ajuster au patient. Puis je pense que c'est surtout ça le gros message, moi, du choix des amines, là. Moi, c'est, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu de des recommandations.
Ouais, il était un petit peu comme un peu trop directif, puis un peu manque de réflexion. Alors, on a quand même fait un bon travail de réflexion dans le podcast sur les amines. Fait que je vous invite à aller l'écouter, là, puis naturellement, on ne peut pas en parler en quelques minutes comme ceci.
T'as tout à fait raison, Yann. Notre épisode, je pense qu'on est allé en tout cas en très bonne profondeur. Mais il n'y a pas juste les amines, hein, quand on réanime un patient, surtout en choc septique, il y a aussi la réanimation liquidienne. Puis ça, je suis très curieux de t'entendre sur les recommandations qu'ils ont faites.
En fait, la recommandation du 30 cc kilo à donner à nos patients qui ont de l'hypoperfusion, entre guillemets, là, et qui sont instables à l'intérieur de 3 heures n'a pas changé. C'est quand même encore la même affaire. Seul petit détail, enfin, ils ont éliminé le normal salin de l'équation et ils disent d'aller plus avec des solutés balancées. Mais le problème avec ça, c'est que c'est pas vrai que tout le monde a besoin d'un 36 kilos. Il y en a qui ont besoin de plus, il y en a qui ont besoin de moins. Il faut quand même réfléchir, évaluer et bien penser parce que sinon, vous allez mettre votre rein, votre cœur, votre poumon à risque en termes d'hypervolémie. Il y a un paquet d'études qui ont montré que l'hypervolémie aux soins intensifs, c'est extrêmement néfaste. Alors, je suis extrêmement déçu d'avoir encore trouvé ça là-dedans. Puis, je pense que si on va dans les deux extrêmes, là, si on a une cardiomyopathie là, à 15 %, c'est pas vrai que je vais lui donner 36 kilos. Puis, d'un autre côté, si j'ai un patient qui a une salmonelle puis qu'il y a eu 10 litres de diarrhée dans les 4 derniers jours, bien, il va avoir besoin de plus que 36 kilos. Alors, ça me dérange complètement, puis je pense que tu sais, c'est des recommandations faibles avec un bas niveau d'évidence, puis c'est exactement ce que c'est. Je pense qu'il faut en faire une réflexion et une évaluation beaucoup plus poussée, échographique ou avec n'importe quelle autre aide que vous avez besoin, mais aller vers ça.
Ouais, mais là, Yann, il faut voir le côté positif.
Je sais où est-ce que tu t'en vas.
En 2016, hein, tu le sais comme moi, c'était une recommandation ferme, hein, de noyer le patient. Mais maintenant, c'est une suggestion.
C'est bien, c'est vrai, il y a eu une amélioration. On suggère de noyer au lieu de recommander. C'est parfait, c'est excellent, Mathieu. J'adore ça. toujours un peu dans la volémie, puis l'hémodynamie, ils ont quand même statué sur les bicarbonates, ce qui est quand même bien cette année. En fait, ils ont mis des paramètres. Naturellement, lorsque vous avez juste une acidose lactique, c'est pas un bon choix d'utiliser des bicarbonates, mais ils ont quand même mis des paramètres là, en termes que si vous avez un pH qui est en bas de 7,2, si vous avez une insuffisance rénale aiguë et si vous avez un choc septique, ben peut-être que les bicarbonates sont à considérer. Je ferai un petit bémol là-dedans. Je dirais que, bon, pas nécessaire d'avoir une insuffisance rénale pour mettre des bicarbonates. On peut avoir une acidose métabolique très profonde sans encore avoir une insuffisance rénale qui cause l'acidose métabolique. Naturellement, le patient est en choc septique, c'est le cas, hein, c'est des guidelines de choc septique. Mais par contre, lorsqu'on a des hautes doses d'amine, c'est un peu ce qu'on disait dans notre podcast sur les amines, ben, vous allez peut-être un peu potentialiser l'effet de vos amines avec vos bicarbonates. Fait que ça, je suis content d'avoir vu ça. Tu vois, je suis pas juste négatif, Mathieu, par rapport à ces guidelines-là. Je vois les bonnes choses là, à ce niveau-là.
Non, mais tu vois, tu es positif. Il y a des bonnes choses qui ressortent de ce guideline-là, tu vois. Puis il y a une autre chose aussi. Puis je pense que on va être tous les deux d'accord. Puis je pense même que les auditeurs vont l'être aussi, là. On commence à parler aussi de plus en plus de soins palliatifs, de niveaux de soins. Je trouve que c'est une section qui mérite la lecture. Puis je serais curieux de t'entendre là-dessus.
Oui, effectivement, la dernière section, qui est la section comme pronostic et but de soins, goal of care, niveau de soins, je pense que c'est une des sections les plus importantes puis que vous devez aller lire. Il y a beaucoup de best practices dedans, donc avec des recommandations qui sont significatives. Oui, il y en a trois qui sont venus me chercher un peu, dont la première, c'est d'intégrer un peu plus rapidement les soins palliatifs. Naturellement, lorsque l'école le demande, là, ils disent justement pour pas tous les patients de soins intensifs. Lorsqu'on a des familles qui sont entre guillemets, difficiles, là, je ne veux pas dire difficiles, mais qui ont de la misère à cheminer, par exemple. Je pense que de mettre les soins palliatifs, ça peut être une très bonne idée. Puis c'est peut-être quelque chose que moi-même, je ne fais pas assez. Donc ça, c'est venu un peu me chercher. Puis je pense que ça, c'est très bien. Fait que vous lirez celle-là. Le BCM, le bilan comparatif
Ouais.
des médicaments, ça, my God, quelle bonne idée. Puis ils disent au congé des soins, pour au congé de l'hôpital, pour faire du ménage dans les médicaments, puis pour être capable de repartir avec une comparaison de ce que le patient avait avant d'arriver. Puis ça, Mathieu, je suis sûr que ça te parle parce que ça fait partie de ton travail de tous les jours.
Oui, ben ça c'est sûr là, tu sais, faut éviter que le patient reparte avec, mettons, des trucs qui sont temporaires qu'on a débutés pour les soins intensifs. Puis ça faut le faire à toutes les transitions de niveau de soins. Ce que je veux dire, quand le patient a congé de l'étage, des soins vers l'étage ou que congé de l'étage à domicile, ou même ce qu'on voit de plus en plus là, avec nos unités puis les hôpitaux qui commencent à avoir de moins en moins de lits disponibles, qu'on peut avoir même des congés des soins intensifs à domicile. On
Directement.
commence directement, c'est
Ouais.
quelque chose qu'on voyait pas dans les dernières années, mais bon, il faut ce qu'il
Ouais.
faut. Fait que c'est super important de réévaluer les médicaments, là, ça c'est sûr que tu parles à la bonne personne.
Tout à fait. Puis ça fait partie de l'agrément maintenant des centres hospitaliers, là. Il faut en faire une norme. Le dernier que j'ai trouvé très intéressant et qu'on entend de plus en plus parler, c'est tout le suivi au post-congé, les cliniques post-soins intensifs. Eux, ils suggèrent de faire pour tous les problèmes qui sont physiques, cognitifs et émotionnels, tous les stress post-traumatiques, toutes les causes de démence qui sont accentuées par les passages aux soins intensifs, d'assurer peut-être des cliniques de suivi de ça. Et ça, c'est vraiment bien, puis ça fait partie maintenant des best practices. Fait qu'effectivement, Mathieu, la dernière portion me semble tout à fait adéquate et intéressante pour n'importe quelle unité de soins intensifs qui se respecte. Écoute, on a fait un grand tour très rapidement. Naturellement, on ne voulait pas vous noyer. Il y avait 93 recommandations. On espère qu'on est allé vers les choses les plus importantes. Je vous suggère fortement de les lire, même si vous les connaissez, d'aller, comme je le disais tout à l'heure, de lire un peu plus les détails. Je le répète, d'être un grand partisan des guidelines en étant aveugle en le faisant, ce n'est pas une bonne chose. Par contre, si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous ne le savez pas, c'est un excellent moyen de créer une pratique médicale qui est adéquate. Après, le fine-tuning vient avec l'expérience et vient avec l'aisance que vous avez à travailler. Je le répète, ce que je dis toujours à mes résidents, one doesn't always fit all, mais des fois, il faut être capable de reconnaître lorsque une norme est importante, il faut le faire puis il faut bien le faire.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Yann. C'est un bon document de départ, surtout quand on n'a pas l'aisance de la prise en charge d'un choc septique. Moi, ce que je retiens beaucoup de ce document-là, c'est que oui, il faut faire vite, mais on peut prendre 5 minutes pour se poser les bonnes questions, pour adapter le traitement au patient qu'on a devant nous. Dans le fond, c'est d'individualiser sa thérapie. Je pense que c'est surtout ça là, que je retiens. On prend un petit 5 minutes, on se pose les bonnes questions, puis on l'individualise.
Tout à fait d'accord, tu as dit de prendre un 5 minutes. Moi, ce que j'ai hâte de prendre, c'est 5 ans pour voir les prochains guidelines dans 5 ans. J'espère qu'ils vont être encore mieux. Comme je le disais, je suis un peu déçu entre le 2016 puis 2021. J'espère être moins l'être un peu plus tard. Maintenant, à vous de faire votre propre idée. En terminant, on vous invite à vous joindre à nous sur Twitter. On aimerait s'entendre vos réactions là-dessus. Gênez-vous pas. Je vous souhaite à la prochaine. Bye, Matt.
Bye Yann, bye tout le monde, attention à vous autres. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.